Aujourd'hui, la masterclass de Blutch avec Toufik Hakem.
Bonjour Blutch.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette masterclass de France Culture enregistrée en public.
Merci de m'avoir invité.
En public, durant le 45e Festival international de la bande dessinée à l'espace Franquin. On va prendre de vos nouvelles pour commencer. Votre premier dessin publié remonte à il y a 30 ans à peu près. C'était en mars 1988 dans Fluide Glacial. Entre cette première publication et aujourd'hui, avez-vous le même rapport au dessin ?
C'était la semaine dernière, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est juste un souffle, si vous voulez. J'ai l'impression d'avoir encore rien fait et rien dit, si vous voulez, d'une certaine manière. Personnellement, intimement, je me dis que j'ai tout reste à faire. C'est présomptueux, mais je me dis que j'ai vraiment tout devant moi encore. Si vous voulez, j'ai toujours 20 ans. Voilà. Je suis là devant vous aujourd'hui, je vous dis, moi, j'ai toujours 20 ans.
Pour les formes à explorer, ou y compris techniquement ? C'est-à-dire que techniquement, moi, je voudrais bien savoir si votre manière de dessiner mue, progresse, change, je cherche le mot. Enfin, est-ce que votre trait suit un peu votre évolution mentale, ou comment votre travail s'accommode ou s'enrichit avec le passage du temps ?
Évidemment, le dessin, c'est une forme, c'est le cerveau ouvert, si vous voulez. Je veux dire, c'est le cerveau offert, si vous voulez, d'une certaine manière. Le dessin, en tout cas, suit ce qu'on appelait à une époque les humeurs, les états d'âme, ce qui fait tout un... C'est absolument associé à ce qui fait ou constitue un individu. Je veux dire, c'est moi, dans mes bons jours, dans mes mauvais jours, dans mes jours fastes, dans mes jours de doute. Et je suis un peu rétif devant le mot évolution. Je ne sais pas ce que c'est évoluer, parce que évoluer, ça implique une pente ascendante. Donc je ne dirais pas évoluer, mais changeant. Le dessin est là, il change et il épouse tous les jours, les jours gris, les jours ensoleillés.
Et tous les âges ?
Tous les âges ?
Mmh.
Oui, ouais, ouais. Bien sûr. Oui, oui, oui. Parce que vous parlez de 1988, mais moi je dessine depuis 1970. Je fais la même chose depuis toujours. C'est presque effrayant à dire, c'est presque triste de pas avoir, on va dire, pour utiliser ce mot, évolué à ce point-là. C'est-à-dire de faire la même chose, d'en être encore à cette espèce de stade de barbouillage. Le stade anal, c'est-à-dire je barbouille toujours, je suis toujours semblable à l'enfant que j'étais, d'une certaine manière.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vous pose cette question parce que vous avez exprimé une peur de voir votre dessin se scléroser avec le temps. Ça veut dire quoi ?
Parce que la bande dessinée est un exercice qui demande une telle rigueur, une telle discipline. La pratique de la bande dessinée nous impose une grammaire tellement étroite. Déjà, le dessin est enfermé dans des cases, hein, la plupart du temps. Donc... tout est là pour que le dessin s'ankylose, se raidisse, s'amidonne. Tous les éléments sont là pour que notre dessin se dessèche. Donc, à l'intérieur de cet exercice domestiqué qu'est la bande dessinée, et essayer de rendre un dessin vivant ou simplement plaisant à exécuter, c'est pas gagné en fait.
Pourquoi vous êtes confronté à cette lassitude de la répétition de dessiner ? Je ne crois pas, non ?
Non, je suis pas du tout. Ah non, moi j'adore dessiner, je dessine tout le temps, hein, mais je dessine hors les cases, ou je dessine pour pas être publié même. Je veux dire, je dessine pour moi, si vous voulez, je dessine tout le temps.
Et ce plaisir n'a pas changé ?
N'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment. Mmh. Et ça, franchement, ça me lâche pas. Mais maintenant, les états d'âme, si vous voulez commencer par ça, oui, par exemple, j'ai un rapport un peu compliqué avec la fiction, par exemple.
Pourquoi ?
C'est-à-dire qu'avec le temps, je lis moins de romans et je suis plus intéressé par les essais. Et donc, dans mon travail aussi, j'ai plus de mal à raconter ce qu'on appelle une histoire romanesque ou ce qui fait que la BD est la BD, le feuilleton. Parce que la BD est toujours fille du feuilleton. Hein. Tout ce qu'on voit, c'est que du feuilleton. Hein. C'est super, hein. J'adore ça en tant que lecteur. Mais moi, en tant que dessinateur ou ce qu'on appelle auteur, je préfère le mot dessinateur et je préfère le mot dessinatrice. Je préfère... Je suis mal à l'aise avec la. Avec le, là, je suis mal à l'aise avec la fiction, si vous voulez. J'ai toujours un rapport difficile avec la fiction. Voilà. Mmh. Voilà, c'est faux.
Et mais, pourquoi vous
mais les états d'âme, ouais. C'est pas. Enfin, c'est des problèmes de riches quand même. Hein.
Et pourquoi vous refusez d'être considéré comme un auteur alors que vous êtes tout à la fois scénariste et dessinateur?
Mais j'aime bien le mot dessinateur. Il m'a toujours plu ce mot. Et puis voilà. Enfin, et quand j'étais petit, ouais. On disait ah, c'est le dessinateur. Et je trouve dessinatrice aussi très jolie. Voilà, ça me va très bien. Je suis dessinateur.
Et auteur de bande dessinée?
Oui, ok, d'accord. Mais ça, c'est la société, c'est vous, si vous voulez. Ça me regarde pas d'une certaine manière. Voilà. Là, on est en train de parler presque. C'est des histoires d'épitaphes, là. Qu'est-ce qu'on va mettre sur sa tombe?
Non, mais pour revenir justement au temps et tout ça, la question était aussi, est-ce qu'on progresse dans son art quand on est dessinateur?
Ouais, allez, ouais, bien sûr. On progresse et on régresse, non? Enfin, mais c'est peut-être, c'est la pratique, ce qu'on appelle la pratique artistique, c'est tellement nébuleux et tellement pas, d'une certaine manière, tellement pas calculé. C'est toujours une espèce de part... instinctive, presque animale, enfantine, on va dire, qui fait que, d'une certaine manière, même la progression ne rentre pas en ligne de compte.
Mais ça, Blutch, si j'insiste, c'est parce que vous avez déclaré à l'occasion de la sortie de Variation que la bande dessinée vieillit et que certaines bandes dessinées pouvaient vieillir plus vite que les autres.
Oui, il y a des livres qui vieillissent, bien sûr, évidemment. Oui, il y a des choses qui vieillissent. Par exemple, il y a des formes d'humour qui vieillissent. Voilà, on s'en rend compte lorsqu'on retombe sur des albums ou 30 ou 40 ans plus tard. Oui, bien sûr. Alors, un peu ingénument, je m'étais dit, ben tiens, pour pas vieillir, je vais devenir de plus en plus académique. Donc, je me suis dit que mon dessin allait tendre vers une forme de classicisme, on va dire.
Ouais.
Comme ça, je vais rester.
Et qu'est-ce que vous entendez
par classicisme
dans la bande dessinée?
Parce que j'ai pas envie, ça m'est égal, mais sur un vide-grenier, dans 50 ans, quand un type il va tomber sur un de mes vieux bouquins défraîchis, il va dire « Oh là là, ça fait trop 2010, ce truc ». Non mais, voilà, bon. Mais j'y pense à ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense un peu, des fois, oui, à la pérennité de mon travail, ouais. C'est-à-dire, je vais... tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, je vais essayer de moins bavarder, et voilà. Bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que je réussis. Hein. Mais en tout cas, oui, j'y pense. Ouais.
Alors, pour en finir avec ça, et pour tout vous dire, Blutch, c'est parce que cette question m'obsède depuis le début de l'année, quand Lewis Trondheim m'a dit « Je vais bientôt arrêter la bande dessinée, on peut pas vieillir avec ce métier, il faut passer à autre chose ». Bon, ben alors, il se trouve que cette année à Angoulême, c'est Richard Corben qui a été primé, qui lui dit absolument le contraire. Hein. Ouais. Il dit « Je continue à faire de la bande dessinée, je continue à découvrir des nouvelles formules et je travaille jusqu'à ma mort ».
Il travaille, il produit. Des livres arrivent, des comics arrivent, et son style ne s'émousse pas du tout. Hein. Il cherche toujours des trucs, des solutions. Il a toujours un dessin d'une acuité, d'une vivacité, toujours très intéressant. Mais je pense qu'il est fou. Il faut se couper de toute vie sociale pour faire de la BD, si vous voulez. Je devrais même pas être là à parler avec vous. J'aurais même pas dû fonder une famille. Si j'avais voulu être un dessinateur de bande dessinée vraiment tel qu'il devrait être, j'aurais dû rester à vivre chez mes parents. Dans ma chambre, j'aurais dû rester en pyjama. Le vrai dessinateur de BD, c'est ça, en fait. Après, les tumultes de la vie sociale, familiale, etc., ça ne correspond pas à cette discipline qui devrait être celle du dessinateur de bande dessinée véritable. Je pense que Corben, que j'admire par ailleurs, lui a cette espèce de recueillement du moine, si vous voulez.
Alors, pour revenir à vos débuts, Blutch, à ce premier dessin publié suite à un concours, à vos débuts avec Marcel Gottlieb dans Fluide Glacial, est-ce que c'était pour vous l'aboutissement d'un processus? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de vocation?
Ouais, d'accord, oui.
Alors, comment ça s'exprime?
C'est une vocation parce que j'étais nul en tout et j'étais à peu près bon en ça. Donc, si vous voulez, j'avais peu de choix, si vous voulez, dans tout ce qui m'était proposé. Donc, mais c'était pas un aboutissement.
Alors c'était quoi?
Mais parce que je n'étais pas spécialement un lecteur assidu de Flux Glacial. Si vous voulez, moi, Mon rêve à ce moment-là, c'était plutôt de faire un truc dans À suivre, ou dans Métal hurlant, j'étais plus Métal hurlant ou À suivre que Fluide. Voilà. Après, les circonstances ont fait que je suis arrivé à Fluide, j'étais très heureux là. En tout cas, pour démarrer, c'était vraiment l'idéal de démarrer dans un journal, si vous voulez, d'être prépublié, d'avoir la carte de presse, d'avoir un salaire, si vous voulez. Moi, j'ai commencé ce métier dans des conditions absolument... c'était royal. Vraiment, hein.
Et ça faisait longtemps que vous vouliez devenir dessinateur, de faire du dessin de votre passion, votre don, votre métier.
Oui.
Comment c'est arrivé?
C'est arrivé parce que j'étais lecteur. Et comme j'étais lecteur et que je prenais un tel plaisir à lire, j'avais envie de prolonger ce plaisir et de me mettre aussi à écrire, si vous voulez. Après, il y a un petit moment d'hésitation lors de mes études aux Arts Déco.
De Strasbourg, je
rappelle. Où j'étais sollicité par le prof de l'atelier de peinture. Donc je pouvais rentrer ou en peinture ou ce qu'on appelait l'illustration aussi. Donc, et j'ai hésité à un moment donné. Mais après, une chose qui me plaît, moi, dans la BD, c'est les mots. L'art du dialogue. C'est un des plaisirs de la BD, donc je ne pouvais pas tellement adapter ça à un travail plus plastique. En plus, en 85, la peinture, c'était ringard. Hein. C'était le conceptuel, le dieu unique de l'école des arts déco de Strasbourg, c'était Joseph Beuys. Et tout ce qui était barbouille et tout ça, c'était vraiment méprisé. Donc je préférais la BD avec ce côté un peu industriel. Ces cases, ces planches débitées, quoi. Voilà, ça m'a toujours. Et puis j'étais un grand lecteur. Enfin, je suis toujours un grand lecteur. Je suis amoureux de la BD, quoi.
Donc, elle était là très tôt. Blutch, faut-il le rappeler, c'est votre nom d'artiste, donc intimement lié à l'enfance, puisque Blutch, c'est le surnom de qu'un camarade de classe, pour votre ressemblance à l'époque, ressemblance physique avec l'un des héros des tuniques bleues, vous avez donné ce surnom, donc c'était déjà présent.
C'est un surnom, oui, qui a balayé le reste. Mais...
Donc moi j'imagine une scène, c'est-à-dire dans une récréation avec des camarades, on parle de bande dessinée.
Oui, bien sûr. À l'époque, oui, aujourd'hui je pense plus, mais en tout cas à l'époque, oui, bien sûr. Oui. Je pense que nous commentions le dernier Tunique Bleue, si vous voulez. Ou on se le prêtait, parce que tout le monde ne peut pas l'acheter. Non, bien sûr, oui, je crois bien. C'est marrant parce que ce matin je lisais, dans le train là, mon ami éditeur José-Louis Boquet m'a donné, juste avant de partir, là, m'a donné un petit... chaque année, pour la nouvelle année, il envoie une carte de vœux, ce qui est assez... C'est à chaque fois un petit livre. Et là, c'est une interview qu'il a fait de Mireille Darc, il y a une quinzaine d'années, qui n'a jamais été publiée. Donc, sa carte de vœux, c'est cette interview sur une trentaine de pages. Donc, j'ai lu ça ce matin. Et Mireille Darc explique que son pseudonyme, parce que c'est pas son vrai nom. Elle l'a choisi aussi pour se débarrasser de son passé, pour se créer en tant qu'artiste une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle identité. Et j'ai regardé le paysage et je me suis dit oui, moi aussi, hein, d'une certaine manière. C'était pour me recréer, si vous voulez. Ce nom de Blutch, c'est une manière de se recréer, d'être nouveau, de renaître, si vous voulez, de laisser la famille de côté. Donc donc je l'ai gardé. C'est parti ce truc-là comme une traînée de poudre, vraiment.
On continue sur France Culture, cette masterclass avec Blutch, enregistrée à l'espace Franquin à Angoulême. Votre dernier livre, Variation, qui ressemble à une anthologie ou à un album de reprises de 30 planches, de 30 auteurs qui ont compté pour vous. Alors, mis à part, bien sûr, la planche consacrée à Goossens, les 30 auteurs sont tous issus d'une même génération. Fin des années 50, début des années 80, Jigé, Hergé, Maurice, Mézières, Franquin, Manara, Lozier, Pétillon. C'est aussi une géographie, hein. Mm-hmm. France, Belgique, mm-hmm. Italie. Est-ce votre BD tech idéal ou un hommage aux auteurs en forme de questionnement sur votre travail d'auteur de bande dessinée?
C'est surtout un questionnement... devant la pratique de la bande dessinée et comment d'autres l'ont abordée. Et oui, c'est aussi une partie de ma BD tech idéale. Parce que j'en ai laissé beaucoup de côté, je le regrette si vous voulez. Parce que c'est un choix restreint. Et je me suis borné en plus à attaquer uniquement des auteurs européens, belges, français, italiens. J'ai laissé de côté les Américains, etc. Voilà. Donc on est vraiment sur une toute petite parcelle, si vous voulez. Je laboure un petit bout de terrain, mais c'est le plaisir de refaire. Il y a un plaisir de refaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais juste de s'approprier une forme déjà existante et de rejouer la scène. Comme voilà, on va revenir vers cette sacrée enfance, mais c'est comme lorsqu'on rejouait le western de la veille, le mercredi, avec les copains, on refaisait les scènes, si vous voulez. On se déguisait, et dans le champ, on rejouait les scènes du western qu'on avait vu la veille. C'est-à-dire de rejouer, le plaisir de rejouer, de refaire. C'est vraiment... Et c'est aussi le moyen de, aussi, bizarrement, parce que de s'échapper à soi-même. C'est-à-dire de s'oublier. C'est-à-dire je me plonge chez les autres, comme ça je m'oublie un peu. Parce qu'auteur, c'est ambigu, si vous voulez. Parce que quand on est auteur, il faut qu'on vive avec soi-même, mais en même temps, il faut qu'on s'échappe. Il faut qu'on s'oublie. C'est ça la difficulté. C'est une des difficultés du travail artistique, si vous voulez. Il faut tout savoir, et puis en même temps, il faut tout oublier. C'est un travail impossible, en fait. Donc, d'attaquer variation, en plus, donc de recopier ces passages de bandes dessinées plus ou moins célèbres.
De les changer, des fois, de les recopier tels que...
je ne suis pas toujours fidèle. Hein, ouais, il y a des astuces, des fois, bon, voilà, il y a des inversions, mais... Je poursuis un travail que j'ai entamé il y a bien longtemps aussi, parce que des variations ou des copies, j'en fais depuis l'origine, si vous voulez. J'ai toujours refait, voire redécalqué. Ma première bande dessinée dont vous parliez, qui est parue dans Fulgaciel en 88, s'appelait Les Aventures de Tintin. Et la première case, c'est vraiment une décalque d'une case de Tintin au Tibet, que j'ai carrément décalquée. Hein. Donc on a vraiment... c'est pas neuf chez moi, si vous voulez, cette espèce d'intérêt pour les formes préexistantes. Je travaille sur un livre qui me demande beaucoup d'efforts et de concentration, qui est une adaptation de Tiff Etendu.
Et qu'on attend, effectivement.
Et je suis obligé de tout créer, si vous voulez. Rien n'existe avant que j'arrive sur la feuille, si vous voulez. Je suis obligé de tout créer, le décor, les personnages, leur posture, l'angle, etc. Je suis obligé... Alors que variation est une forme de récréation, on va dire. Parce que tout est là, déjà, si vous voulez. Tout est déjà, les formes sont là, préexistantes. J'ai juste c'est une recréation, mais c'est une récréation aussi. Voilà.
Est-ce que ça vous a appris des choses sur ces auteurs-là, précisément, le fait de les reprendre, de les rejouer ?
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Je les ai compris, je les comprends. Sur le coup, j'ai eu l'impression de les comprendre mieux, vraiment. Et j'avais vraiment l'impression de, pas de percer leurs secrets, mais de rentrer dans leur cerveau, des fois, mais vraiment. Hein.
Par exemple ?
Eh bien, je devine le moment où tel ou tel a eu un plaisir particulier à dessiner telle ou telle séquence ou telle forme. Par exemple, la page d'ouverture est une page de Pélos, Les Pieds Nickelés. Et là, il y a une telle vivacité dans son dessin et une telle rapidité que j'ai l'impression de rentrer dans ce ballet. Je voulais rentrer dans cette espèce de ballet, cette manière dont il travaille, là, ce côté virevoltant, là, cette rapidité. Je voulais jouer à l'unisson, si vous voulez, de Pélos. Je ne sais pas si je suis arrivé, mais j'ai eu l'impression de voir comment il faisait, de comprendre comment il faisait. Alors, il y a des traits qui virevoltent dans tous les sens et ça grouille. Et je me suis attaqué à des gens qui font des choses que je ne suis pas capable de faire par moi-même, si vous voulez. Mais j'ai essayé quand même d'essayer de voir comment eux... S'y était pris. Bon, voilà. Il y a des dessinateurs que j'ai vraiment. que que j'ai trahi, hein, où j'ai carrément... par exemple, j'ai adopté des points de vue différents, ou alors pour Giraud, j'ai interverti les sexes, les hommes sont devenus des femmes, bon, voilà, d'autres reprises, il y a des petits... Voilà, bon. Mais il y en a...
Ou Gaston, aussi.
Ou Gaston, oui, j'ai interverti Gaston avec Monsieur de Mesmecker. Mais pour d'autres, je suis sorti d'une fidélité liturgique, si vous voulez. J'ai suivi Maurice et Hergé, par exemple, je suis resté collé à leur dessin... sans pouvoir m'en détacher.
Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont plus sacrés que les autres ?
Non, pas du tout. Je pense qu'ils dégagent une autorité sur moi et que ça m'en a imposé, j'ai rien pu faire. Et en plus, j'ai une telle joie, et Pélos aussi d'ailleurs, j'ai une telle joie à me... Voilà, mais je n'étais pas voulu ni calculé. Il y a un épisode de... Excusez-moi, je vous coupe. Il y a un tout petit passage des Tuniques Bleues que j'ai au début d'un album où les deux héros surprennent une baigneuse dans une rivière. Et je commence à dessiner cette séquence, mais à la dernière seconde, j'ai changé ma baigneuse en... C'est devenu un gros moustachu, une brute, si vous voulez. Mais au début, j'étais pas parti pour dessiner un homme, si vous voulez. Mais j'ai pris... C'est venu comme ça, comme un, voilà, ce qu'on appelle l'inspiration vulgairement, et je me suis permis ça. Alors que ou chez Maurice, ou chez Hergé, je me suis permis très peu de choses.
Est-ce que chez vous, Blutch, une nouvelle œuvre, un nouveau livre, se fait en réaction au précédent ?
Ouais.
Parce que effectivement, après Flûte glaciale, arrivé avec ce péplum, ouais, c'était un peu l'anti-fluide. Ouais. Et on peut dire la même chose. Hein. Vous enchaînez tout de suite après avec un livre de dessin sans texte, La beauté. Ouais. Et j'ai l'impression que longtemps, vous avez eu besoin de changer de registre radicalement. Comment l'expliquez-vous ?
Par ce dont on parlait au début. C'est simplement parce que je suis pas professionnel. J'ai pas cette discipline qui fait le bon dessinateur de bande dessinée.
C'est pas le plaisir de tout explorer.
Mais même pas. Je suis inconstant ou infidèle ou en tout cas c'est dans cette inconstance là que moi je me renouvelle ou je trouve de l'énergie. Voilà. Change de monture, change de maîtresse. Hein, et à chaque fois, c'est un nouveau départ. Donc, c'est que des départs, si vous voulez. Mes travaux, c'est que des départs. J'ai rien poussé jusqu'à son extrémité. C'est que des débuts.
Alors, cette
comme
manière...
les débuts des histoires, ouais, amoureuses.
Ouais. Pour rester toujours amoureux.
Ouais. Ouais, je vous l'ai dit, je suis toujours amoureux de la BD, moi.
Alors, cette manière de changer de format narratif, de passer d'un genre à l'autre, est-ce que c'est aussi vos rapports avec... les regards extérieurs, les regards amis. Est-ce que, par exemple, on peut dire que vous avez fait le récit à caractère biographique ou faussement biographique, Petit Christian, pour l'association, parce que c'était là qu'il fallait le faire. Ce que vous avez fait pour Cornelius, c'était aussi une rencontre avec un autre éditeur, un autre regard sur la bande dessinée. Est-ce que c'est important pour vous, le regard d'un éditeur ou même d'une autre personne ?
C'est essentiel. C'est essentiel. Les livres que j'ai faits, je les ai faits parce que j'étais en relation avec un éditeur particulier, dans une maison particulière, et donc ça me... cette ambiance, à chaque fois, ou cette rencontre, me détermine, mais vraiment d'une manière cruciale, ce que je vais faire. J'aurais pas pu faire ceci, ça, ou quoi, ou... Non, non, vraiment, c'est très, très... C'est essentiel. Donc, les éditeurs avec qui j'ai travaillé, Jean-Christophe Delpierre, Jean-Christophe Menu, Jean-Louis Capron, Sébastien Nédig, Thomas Ragon, ce sont des gens qui, pour moi, sont essentiels. Mais comment... en oublier en milieu, ça va être drôle.
Mais comment ça se passe, Blutch ? Vous avez une idée, donc vous pensez à une personne ou bien...
C'est vraiment une personne, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a son rôle d'inspirateur. Ah oui, pour moi, c'est très important.
Mais ça marche dans les deux sens. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir une idée et d'aller voir un éditeur particulier en disant « avec lui, ça va marcher » Ou est-ce que c'est plutôt des suggestions d'éditeurs ?
Non, c'est des rencontres presque en dehors du métier à chaque fois. C'est des rencontres de gens. C'est très particulier hein, comme alchimie. Hein. C'est très, très spécial. Mm. C'est difficile à... C'est difficile à définir. Définir ici, c'est difficile. Mais tous ces gens, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait s'ils n'avaient pas été là.
Et en dehors des éditeurs, il y a d'autres regards qui comptent pour vous, pour votre travail? Ou est-ce que vous êtes plutôt seul, juste avec votre éditeur et puis, ça
non,
suffit.
Il m'est arrivé de faire des livres parce que juste pour m'adresser à une personne. Comme une lettre, si vous voulez. Il y a des bouquins, c'est comme des lettres. C'est des lettres qu'on envoie à quelqu'un. Mais sinon, je pense pas à ce qu'on appelle le public, si vous voulez. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Parce que je suis détaché. non, mais disons que le public, ça veut dire rechercher une forme de connivence avec le public. Et si je recherche une connivence avec le public, si vous voulez, si je la recherche, je vais peut-être me perdre en route, si vous voulez. Donc, il vaut peut-être mieux que je n'y pense pas trop. Voilà. C'est-à-dire que ça ne rentre pas en ligne de compte pour moi. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent, justement, des éditeurs, etc., qui me laissent faire à peu près ce que je veux, quand même.
Quand vous dites « etc. », c'est-à-dire mis à part les éditeurs, vous avez parlé de lettres d'amour. Bah,
les éditeurs, etc., mais ouais. parce qu'il n'y a pas que les éditeurs dans une maison. Il y a d'autres, il y a d'autres postes de travail. Mmh. Et je rencontre la bienveillance des gens du métier et qui me permettent de travailler, alors que ce que je fais souvent apparaît quand même déraisonnable, sur pas mal de points, dont je suis un point de vue plutôt commercial, c'est pas, voilà, pour parler vulgairement.
Ouais. Qu'est-ce qui est difficile pour vous, Blotch, à dessiner? Est-ce, par exemple, figurer par le dessin des sentiments ambigus, ambivalents? Est-ce, par exemple, la mélancolie ou le doute?
Non.
Que sais-je?
Non, le dessin, il permet tout. C'est pour moi, c'est la langue parfaite. Et si j'étais fort, et si j'étais en forme, et si j'étais dans mon truc à 100%, je pense que je pourrais tout décrire et tout faire. Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas assez fort, mais si je pouvais, je pense, avec les armes, avec ce que le dessin amène, avec les armes qu'il nous donne, je pense qu'on peut... C'est un langage d'une richesse insondable, mais vraiment. Hein. Puis en plus, c'est mystérieux, et c'est surprenant, et puis c'est abstrait, c'est archaïque, et puis en même temps, c'est moderne, et c'est tellement unique. Si vous voulez, c'est mon écriture, c'est une forme d'écriture unique. C'est qu'il y a que moi qui, voilà, il y a que moi qui peut faire ce que je fais. C'est vous. Mais et les dessinateurs qui sont là dans la salle, il y a que eux qui peuvent faire ce qu'ils font. C'est vraiment, c'est une espèce d'écriture, de surécriture intime, si vous voulez. C'est juste irremplaçable.
Alors c'est une question de journaliste, mais autrement posée, ce que je veux savoir, Blotch, est-ce que vous éprouvez plus de plaisir à dessiner des actions, des mouvements de corps, de foule, de bagarre, d'amour, ou ce sont plutôt les décors qui vous intéressent, les personnages, tout?
Tout. Avec la
même intensité de plaisir
Oui, je crois, oui, tout est intéressant, oui. Oui, une femme nue, un caillou, une voiture. Il y a tout est là. Un chien, une nature morte. Enfin, tout est. Non, il y a rien. Il y a pas de hiérarchie, si vous voulez.
Alors, comment vient l'idée de départ? Est-ce qu'il s'agit d'une image, d'une envie étrange, d'une sensation nouvelle ou d'un sujet que vous voulez aborder?
Non, parce que les idées viennent de loin. J'ai pas la Vierge qui m'apparaît d'un coup, j'ai pas un trait de lumière ou une époque où on dessinait une ampoule qui s'allume. Il y a pas de révélation. Donc il y a pas d'idée. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des notes qui s'accumulent et des fois des notes, des intuitions, des choses qui au bout de plusieurs années des fois prennent forme. Si vous, voilà. Donc ça vient vraiment de loin à chaque fois. Bon, maintenant j'ai fait un livre il y a quelques années qui s'appelait Pour en finir avec le cinéma. J'ai fait ce livre. L'idée de base c'était je veux essayer de faire un essai en bande dessinée. C'est-à-dire je vais essayer de dessiner un essai. Pas de romanesque, pas d'aventure, un essai. Donc voilà. Donc j'avais vraiment cette idée-là, c'est-à-dire essayer de mettre en forme dessinée des idées, si vous voulez, abstraites. Voilà, c'était mon idée, par exemple. Enfin, ça, c'est une idée. Voilà. Où j'ai fait un livre de dessin dont que vous avez évoqué tout à l'heure, qui s'appelait La Beauté, que j'ai dessiné il y a une dizaine d'années, et qui est uniquement un livre de... C'est un livre que j'ai... C'est, il y a une centaine de dessins que j'ai fait avec deux couleurs, un rouge et un bleu. Et sans texte, sans rien. Un peu comme des dessins d'humour sans légende, si vous voulez. Ils sont assez scabreux. Il y a des dessins. Bon, voilà, en tout cas, j'en ai fait. Mais l'idée de base, c'était justement... je voulais me débarrasser de la bande dessinée un peu, parce que je ne savais pas trop comment m'en tirer à l'intérieur de cases. Et j'avais envie de sortir de ce carcan, et j'ai fait ce livre. Voilà, l'idée, c'était ça. Genre, tu mets la BD de côté, tu fais un livre de dessin. Tu joues au dessinateur, au vrai dessinateur. Parce que moi, il y a les vrais dessinateurs, si vous voulez.
Alors, c'est quoi être un vrai dessinateur ?
Un vrai dessinateur, c'est Topor, Steinberg, Ungerer, William Steig, Peter Arnault, Chas Adams. C'est ça, les vrais dessinateurs. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la limite du récit dessiné, si vous voulez. Ceux qui ont l'air d'être plus libres, si vous voulez.
Mais vous l'êtes, Blutch.
Oui, mais, je ne sais pas. J'en sais rien. À l'intérieur de. J'aimerais bien être libre, mais à l'intérieur de cette pratique, de la BD, quoi. Vraiment, ça me plairait, ça, d'arriver à faire ça. Mais c'est pour ça que je tiens vraiment à la BD, hein. Je ne vais pas lâcher ça.
Alors, quand vous n'êtes pas, entre guillemets, libre, quand vous répondez à une commande, c'est-à-dire dessiner des musiciens de jazz, vous l'avez fait, ou reprendre Donjon avec un scénario déjà
ouais,
écrit,
ouais.
Est-ce que votre métier change ?
Non.
C'est quoi la différence, alors ?
Non, mais c'est marrant parce que vous dites auteur. Et ça va pas trop en même temps, parce que auteur, c'est être interprète aussi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais par exemple, quand j'ai travaillé sur Donjon, ou quand je travaille maintenant, mon frère a écrit l'histoire de Tiffétendue. Ce sont des récits dont je n'ai pas écrit un traître mot, et donc c'est comme si j'interprétais un rôle, si vous voulez. Je rentre dans un personnage, et j'interprète le récit, si vous voulez, qu'on me propose, si vous voulez. Et donc, il faut encore plus de conviction, hein, d'une certaine manière. Il faut vraiment être convaincu. Pour bien jouer, il faut vraiment, faut y croire, quoi. Et je trouve qu'il y a un côté interprétation, quand même, dans ce travail de dessinateur. Il y a un côté, je me mets dans la peau de quelqu'un et je joue, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est bien confus, tout ça. Mais...
Non, non, on comprend bien. D'autant plus que pour Variation, vous avez dit, pour moi, c'est un album de reprise. Alors là, on comprend bien.
Oui. Ah oui, j'ai fait le parallèle avec la musique. Je me suis dit, les Stones, ils ont bien sorti là, un album de reprise où ils reprennent des standards du blues, là. Et Neil Young aussi l'en a fait. Et je me dis, voilà, c'est mon album de reprise. Voilà.
Vous avez parlé de notes, de
ouais.
carnet.
Oui.
Ça commence quand même par l'écriture.
Oui.
Ça commence et avec des dessins,
non,
et l'écriture.
J'écris. Ouais. Je crois que c'est des mots, ouais, quand même. Pour faire simple, ouais. Voilà. Mais si vous voulez, l'écriture, c'est déjà du dessin. J'écris des mots, c'est déjà une forme de, une manière de dessiner, si vous voulez. Donc voilà.
Est-ce que votre méthode de travail change en fonction des projets ? Est-ce qu'il y a des projets qui nécessitent plus de documentation ? Ou est-ce que...
Oui. La manière d'aborder un travail n'est pas la même à chaque fois, je crois. Ouais. Voilà, pour parler concrètement, comme je travaille sur un récit dit classique, Tiffétendue, et que pour être convaincant, il faut que je sois dedans vraiment à 100%, il faut que je soigne le décor, si vous voulez. Parce que c'est un récit policier, et pour moi, le récit policier, c'est surtout le climat. Et pour soigner le climat, eh ben, il faut mettre le paquet sur le décor. Donc je travaille mes décors, je les cherche, je cherche les ambiances, le bon costume, etc. En ligne de mire, j'ai un album de Tardy qui s'appelle 120 rue de la Gare, qui est un de mes albums de chevet, un gros volume, là, qu'il a fait, qui est l'adaptation de Léo Mallet, qui est paru il y a une vingtaine d'années, et le récit, comme la plupart des récits policiers, il tient sur le climat qui se dégage de... C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas lésiner sur le... sur les murs, sur les rues, sur les voitures, sur les figurants, etc. Donc voilà, ça c'est, il y a des fois je suis beaucoup plus allusif sur ce terrain-là, mais là je suis tenu vraiment de me mettre le paquet sur l'environnement. Voilà.
Blood,
pour que ça marche.
Ouais. Blood sur France Culture, une masterclass enregistrée à l'espace Franquin pendant le festival d'Angoulême, et vous revenez donc avec ce grand livre dans tous les sens du terme, Variation, chez Dargaud, dédié à Marcel Gottlieb, le grand Gottlieb qui était là à vos débuts, et à Alain René, le réalisateur avec qui vous avez travaillé en lui fournissant les dessins pour son dernier film et en réalisant aussi une affiche avec lui. Alors, parlons cinéma. Outre cette collaboration avec Alain René, vous avez joué dans quelques films, par exemple, je pense au film de Mathieu Amalric, mais aussi avec les films de Kerven et Delépine. Vous avez aussi participé à ce film d'animation collectif Peur du Noir. Oui. Alors, le cinéma est par ailleurs assez présent dans votre œuvre, Blutch, et pourtant, moi qui pensais, surtout avec vous d'ailleurs, qu'un dessinateur, auteur, était aussi un metteur en scène graphique, vous dites que contrairement à ce que l'on croit, la BD n'a rien à voir avec le cinéma et que s'il fallait la rapprocher d'une autre discipline, ce serait la littérature.
Oui, je pense.
Et pourtant, il y a une mise en scène. C'est vous qui décidez s'il faut dessiner un personnage de près, de loin. Ça répond à un découpage qui nous, en tant que lecteurs, nous renverrait plutôt au cinéma, non ?
Bon, écoute, Toufik, moi, je suis très simple. Je vois que la bande dessinée, c'est un livre avec des pages. Donc, je me dis, c'est la littérature. Ça se vend dans les librairies, donc c'est la littérature. Voilà. C'est simple. Je veux pas... Et puis je vais enfoncer des portes ouvertes si je parle de ce rapport avec le temps, si vous voulez, le temps de défilement de l'image et le temps de la case. C'est pas la même manière de découper. Je voilà. Mais oui, bien sûr, il y a un cousinage. Il y a un cousinage parce que l'un et l'autre sont enfants de la révolution industrielle, si vous voulez. Ce sont des pratiques nées des bouleversements et des convulsions que nous connaissons depuis deux siècles. On est depuis deux siècles, le monde connaît un tourbillon qu'il n'avait, en tout cas technique, qu'il n'avait jamais connu auparavant, mais inédit. Donc on est toujours dans cette espèce de dans cette espèce de lessiveuse ininterrompue. C'est-à-dire que toutes les pratiques antérieures ont dû s'adapter. Les pratiques dites artistiques sont aussi adaptées aux moyens, aux moyens changeants, à ce qui était proposé, et surtout à la diffusion, si vous voulez. Le cinéma, la bande dessinée sont des arts de la diffusion, ce qui n'existait pas avant. On faisait un tableau pour un prince ou pour un prélat, et puis ce tableau, était exposé dans un palais. Mais maintenant. On a un rapport complètement différent. Tout ce qu'on nous produisons est diffusé. C'est quand même une chose qui n'existait absolument pas. Auparavant, ça a changé tout notre rapport à ce qu'on appelle l'art. Je suis un peu mal à l'aise avec ce mot, mais en tout cas.
Pourquoi, d'ailleurs ?
Je préfère le mot pratique. Mais parce que art implique déjà une forme de jugement de social, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, la bande dessinée, pour dire tout ça, la bande dessinée et le cinéma sont issus de la révolution industrielle, pour moi. Donc ça fait, il y a un cousinage. Ce sont des arts de diffusion. Maintenant, dans les faits, je vois bien que ça, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout. Oui, on choisit des angles, mais on choisit des angles en peinture aussi, si vous voulez, d'une certaine manière, en peinture figurative, même en peinture abstraite. Il y a aussi une forme de mise en scène.
Ah oui. Alors, comment appeler cette
mise
en scène ? Pourquoi
Balthus, d'une certaine manière, est aussi une forme de cinéaste, alors qu'il fait de la peinture et pas de la bande dessinée. Il y a aussi une mise en scène. Donc non, il y a pas de. Moi, j'ai toujours différencié vraiment ces deux pratiques qui m'intéressent au plus haut point. Je les ai toujours différenciées vraiment. Voilà, je vois pas.
Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez l'histoire, Le moment où vous allez passer d'une histoire écrite à sa retranscription en bande dessinée, le découpage, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être trouver un autre mot, si mise en scène n'est pas un mot qui vous convient, Blutch.
Il y a une mise en forme. On parlait du cinéma, presque à tort. Pendant longtemps, j'ai rapproché la bande dessinée plutôt du théâtre. D'abord, il y a l'art du dialogue, il y a une forme de... voilà. Et il y a un côté frontal en BD qui me faisait assez pas mal penser au théâtre, notamment dans la BD classique en plus, qui a un côté théâtral. Et j'ai pensé au théâtre. Il y a un moment où j'étais féru de danse, j'allais voir des ballets, je rapprochais plus la BD de la danse même que du cinéma, si vous voulez. Bon. Mais tout ça, j'étais inconséquent maintenant. Je suis rentré dans le rang. Mais je me nourris, moi, s'il faut parler de moi, je me nourris un peu de tout ce qui se présente, tout ce que j'ai, voilà. Je me fais mon beurre avec tout, pour être grossier.
Et quel rapport vous entretenez, par exemple, avec le cinéma, avant de parler d'autre chose?
Bah, moi, j'ai un grand plaisir à faire l'acteur d'occasion. J'aime beaucoup ça. Parce que je m'oublie. Parce que je suis en vacances de moi-même. Et parce que ça me repose de voir tout le monde énervé et courir autour de moi. Je trouve ça agréable.
Et faire un film...
Ils sont tous stressés, tout le monde court, tout le monde est stressé. Et faire un film, ça me repose vachement, en fait.
Et faire un film, Blutch?
Non, parce que je crois, je sais pas si j'aurais l'autorité nécessaire pour gouverner une armée de techniciens. Trintignant disait que... Trintignant a réalisé 2 films... Il gardait une expérience mitigée, alors que c'est des films très réussis, mais il disait « j'ai pas réussi à m'imposer auprès des techniciens », il expliquait, parce que le matin j'arrivais, je leur disais « oui, j'aimerais que, je voudrais que », alors qu'il faut arriver et dire « je veux que ».
Et hop.
Voilà. Et il me dit « moi je suis trop bien élevé », et quand je disais « j'aimerais que », il prenait ça pour une preuve de faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui s'installe, et je sais pas si je serais capable d'avoir... Vous comprenez ça? C'est simple, hein, c'est juste un truc. Voilà. Après, je voyais René sur les tournages, j'ai fait 3 affiches de films avec lui, et j'ai été intimement lié au dernier film. Et le matin, il arrivait, mais bon, il avait 92 ans, et il arrivait, et il serrait la main de tous les techniciens sur le plateau. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, bonjour. Il y avait une espèce de... Il y avait une... On aurait dit... Il me faisait penser à un vieux peintre avec son... Avec son atelier là, qui avait il y avait ce côté là, et ben, c'était enviable, je peux vous dire. Ouais. Une espèce de sérénité, de recueillement, voilà.
Alors que cela soit dit au moins une fois dans cette masterclass, Blutch, votre vrai nom c'est Christian Inker. Alors question, est-ce que vous avez utilisé un autre pseudonyme pour, je sais pas, écrire des romans, des polars, pour des peintures, que sais-je? Avez-vous une autre vie artistique cachée?
Je ne vous le dirai pas ici.
Oh bah, vous aurez pu profiter de cette belle occasion pour le dire.
Si c'est caché, je ne peux pas le dévoiler. Voilà. Qui c'est qui... non mais, en fait, c'est vrai, d'une certaine manière, mais c'est hyper bête à dire, mais... On y pense surtout quand on est là devant des gens à parler. On disait, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a une espèce il y a un plaisir à s'exposer, bien sûr, un petit peu vain, un peu futile, d'une part de frivolité, mais et qui, d'une certaine manière, qui correspond pas tellement non plus au fait d'essayer de dire quelque chose, si vous voulez. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est-à-dire que la société vous détourne toujours de votre but. Moi, j'avais dessiné parce que je me suis mis à dessiner, franchement, parce que j'avais pas envie d'aller jouer au foot aussi. J'avais pas envie de rentrer dans la société, si vous voulez. Tout le monde était au club, je ne voulais pas y aller. Quoi. Donc je me suis mis à dessiner aussi pour me mettre en retrait de la société. Et là, je suis là aujourd'hui, et y a un plaisir un peu, une petite espèce de complaisance, mais au fond, c'est la société qui me rattrape, si vous voulez. Je devrais être à la maison, à mon penché sur mon,
tifé
sur mon
tondu.
Ouvrage, ouais, sur mon tifé tondu, oui, ouais, qui appelle à l'aide.
Comment sait-on qu'une œuvre est achevée?
Ah, comment? Quoi? Il y a deux mots là, œuvre et achevée.
Et alors?
Je ne sais pas quoi faire de ces deux mots là, quoi.
Ouais.
Vous savez quoi? Vous en parlerez quand je serai en train de bouffer les glaïeuls, non? Par les racines? Non, mais franchement, non. Franchement, je ne sais pas du tout. Non, je peux dire que mon œuvre, ça, si je suis là et si je me mets à trembler ou à plus être capable de physiquement assurer ce travail, je dirais ok, c'est achevé.
Je ne parle pas de l'ensemble de l'œuvre, hein, c'est-à-dire pour un livre, pour une histoire.
Ouais.
Comment vous savez que là, il faut s'arrêter?
Il faut s'arrêter parce que mon éditeur regarde la montre et il dit il faut que ça parte à l'imprimerie dans une semaine. Voilà.
Sans doute, c'est un peu vrai, mais il doit y avoir autre chose.
Non, mais c'est un peu vrai.
Il doit y avoir autre chose, non?
Il y avait. Chez Bretéché, il y a une planche de. Vous avez déjà vu des planches de. Chez elle, il y a une planche originale d'Astérix. Et cette planche, il n'y a pas un seul repentir. Il n'y a pas un seul blanco. Il n'y a pas un seul. Elle est nette d'un trait. Et si on demande à Uderzo, pourquoi c'est si net? Il dit, parce que j'avais pas le temps de refaire. Je veux dire que c'est hyper. C'est juste le truc, c'est ça. C'est juste, j'ai pas le temps, quoi. C'est fini. Voilà, ils m'attendent, ils regardent la montre. Et mes collègues qui sont là dans le public le savent très bien que c'est l'œuvre est achevée parce que il faut qu'on aille, faut que ça parte sur les, il faut que les rotatifs tournent et que tout le monde, toute la chaîne s'impatiente. Voilà.
C'est toute la réponse à la question.
Ouais.
Non, alors je vais la reposer autrement. Alors vous, Blutch, vous qui avez repris quelques planches des grands auteurs dans Variations,
ouais.
Aimeriez-vous retoucher une de vos œuvres, un de vos livres?
C'est une des raisons pour lesquelles je me tiens à l'écart de tout ce qui est numérique. Parce que le numérique permet de nettoyer ou de refaire et de revenir avec une grande facilité. Et franchement, je vous répondrai non, parce que j'aurais peur de me perdre. C'est-à-dire, aujourd'hui, je serais toujours en train de refaire mon premier bouquin. Je serais en train de le refaire mieux, etc. Donc non, voilà.
Alors comment non, vivez-vous
votre honneur? Non.
Merci Blutch. Et si d'autres se mettaient à reprendre vos œuvres?
Ah ouais, ça m'amuserait. Ouais.
Ouais.
Bah là, enfin, je le ferai pas, mais c'est vrai, d'une certaine manière. J'aurais bien aimé reprendre mes contemporains, si vous voulez. J'aurais voulu faire une variation avec mes contemporains, c'est-à-dire.
Par exemple, qui?
Eh ben, moi, j'avais pensé, je me verrais bien refaire une planche de Satouf, ou une planche de Svar, ou une
ici
planche
présent,
de Blin.
Ici présent, Svar, avec
vous. Oui, non, je voulais. Et ça, mais comme si je leur faisais une blague, si vous voulez. C'est le truc que j'ai pensé. Je me suis dit, je ferais bien ça. Presque comme une farce. Voilà. Du Meurice, du Ricard, enfin, je sais pas, il y a plein de gens, là. J'aurais envie de les attaquer. Mais c'est comme faire une bonne farce. Moi, j'ai des amis dans Variation. On a parlé de Gossens ou de Pétillon, qui sont des amis proches. J'avais l'impression de leur faire une farce en reprenant un passage d'une de leurs histoires. Un bon tour. Je vous ai joué un bon tour.
Comment vivez-vous la réception critique de votre travail, Blutch?
Avec détachement, philosophie, une forme de sagesse qu'on acquiert avec la cinquantaine venue, la distance, et voilà.
Ça a toujours été le cas? Au premier degré, là.
Non, mais au premier degré, c'est profitable. C'est profitable parce que ça donne confiance. Ça donne confiance, pas à moi particulièrement, mais ça donne confiance aux autres. Genre, c'est bien, on fait bien de le suivre, lui, parce que voilà. Donc je pense que ça, c'est rassurant, si vous voulez. Voilà.
théoriser sur votre travail, c'est peut-être pas ce que vous aimez le plus, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a des écrits sur la bande dessinée, par exemple Blutch, que vous aimez, qui sont pour vous des textes très importants, qui vous ont peut-être un jour ou l'autre aidé, éclairé?
Moi j'aime bien écrire, franchement, parce que ça me permet de mettre mes idées au clair. Au début de Variation, tout au début, il y a un préambule que j'ai écrit qui est juste l'extrait d'un article plus long que j'ai écrit pour la revue BD Fil de Lausanne. Et en fait, je me trouve des fois dans une telle confusion, dans un tel brouillard, que le fait d'écrire, de mettre mes idées noir sur blanc me permet d'y voir un peu plus clair, si vous voulez. Donc, écrire, oui. Et théoriser, oui. Pourquoi pas? Peut-être même de plus en plus. Le goût de la. Ou d'écrire sur les œuvres des autres, si vous voulez, ou les commenter, etc. Ça m'intéresse. Maintenant, j'ai lu des livres sur l'art qui m'ont captivé, mais pas spécialement sur la bande dessinée. Maintenant, comme ça, là, je pense à Henri Matisse, écrit et propos sur l'art. Si vous trouvez ce livre, il est juste lumineux. Harold Rosenberg, j'ai toujours lu des essais sur l'art, sur les artistes. J'ai lu Jean Clerc, Dominique Radrizzani, ici présent. Enfin, il y a des gens vraiment qui m'ont toujours intéressé, intrigué. Les livres d'artistes, Barnett Newman. Il y a des gens qui écrivaient très bien, qui parlaient très bien de ce qu'ils faisaient, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je peux, en vrac. Mais bon, c'est comme toujours, je penserai à un truc essentiel tout à l'heure quand l'émission sera finie.
Alors, il y a 10 ans, l'âge de la raison, de la sagesse, diront ceux qui vivent avec une spiritualité. Bref, il y a 9 ans, à 40 ans et des poussières, vous obtenez le Grand Prix d'Angoulême. Oui. Êtes-vous sensible aux prix, aux récompenses, Blutch?
Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Mais bon, maintenant, les prix, on a un peu l'impression d'être des écoliers aussi, recevant des prix. Donc, il y a ce côté toujours un peu scolaire, si vous voulez, de la vie qui est un peu. Voilà. Le fait d'être toujours un peu à l'école, c'est-à-dire toujours avoir à faire ses preuves et d'être récompensé, si vous voulez. Mais bon, c'est comme ça que marche la société. Donc, je veux pas me. Voilà.
Et avec le public? La relation.
Ce Grand Prix, c'était une opportunité de faire plein de choses, tout ce qui nous passait par la tête, mes amis et moi, et de monter des expositions intéressantes et de monter une remise des prix amusante. Enfin voilà, on a pris ça comme une chance de mettre en avant. Ça m'a permis de mettre en avant des travaux d'amis à moi. Comme Frédéric Poincelet ou Fabio Viscogliosi, etc. Il y a vraiment des choses. Je garde un très bon souvenir de voilà. Puis j'étais jeune, j'étais fou, et rien ne m'arrêtait. Je sentais que rien n'allait me résister. Non, mais c'était. Donc, c'est le. Oui, un prix, c'est important aussi, parce que ça rassure. Autant qu'un bon article, si vous voulez. Ça rassure les autres. Et ça rassure les gens qui vous entourent aussi.
Et autant qu'un succès populaire, par exemple, pour un livre?
Je sais pas, je suis à l'abri du succès populaire, donc je peux pas vous parler de ça. Allez, c'est pas ce que c'est. C'est de la SF. Je parlais de science-fiction.
Ah, ici, il y a des livres qui ont eu un accueil populaire.
Oui. Mais c'est pas des. C'est pas des charrettes de bouquins, si vous voulez. C'est cette espèce de.
Vous aimeriez justement obtenir un succès colossal avec des rééditions?
Ouais, parce que j'aimerais m'acheter cette voiture là dont je rêve. Un bateau.
Allez, pour terminer, une question un peu prématurée. Est-ce que pour vous, Blutch, la question de la postérité se pose?
Oui. Oui. Je l'ai vaguement évoqué au début, là, quand je parlais de cette manière de faire durer le dessin, si vous voulez. De faire durer le dessin au-delà de d'un goût du jour ou d'une mode, si vous voulez. Essayer que le dessin s'inscrive dans le temps. Donc, ouais, j'y pense. Ouais. Mais pas tellement moi proprement, mais je veux dire juste mes histoires ou ma manière de faire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, j'y pense. Ouais. Ouais, ouais.
Mais comment vous savez que tel trait, tel dessin...
Parce qu'il y a des choses qui traversent les siècles. Pourquoi ? Comment ?
Ouais.
Et des choses qui se consument.
Oui, mais en même temps, on peut inventer quelque chose qui va traverser les siècles, comme d'autres ont traversé des siècles et continuent à traverser des siècles. Comment on peut savoir ce qui va devenir classique ou pas, d'ailleurs ?
À un moment donné, je me suis dit, il n'y a pas de recette, mais je me suis dit, je vais essayer d'être le plus académique possible. C'est-à-dire de céder le moins à des effets de style, hein, si vous voulez. De mettre de côté une forme de complaisance ou de facilité à déformer les formes, si vous voulez, pour parler clairement. J'ai mis de côté les déformations, j'ai essayé de revenir à un dessin strict, si vous voulez, réaliste presque. Bon. Voilà, c'était juste. Et surtout, essayer d'habiter son dessin, de l'interpréter le mieux possible, de l'habiter, d'être dedans, quoi. Il n'y a pas d'autre truc. Bon, c'est pas parce qu'on est sincère qu'on a raison, hein. Mais en tout cas, d'essayer d'habiter son dessin, de pas le. Voilà. Se plonger dedans et de le... Comment dire ? Ouais. Mais en fait, ce qui est bien aussi dans le dessin, c'est que ça se passe de mots. Ça se passe de mots et de formules, même. Et c'est vraiment une autre forme de... C'est une autre forme de raisonner, si vous voulez. C'est un moyen de raisonner différent de tout ce qu'on apprend, si vous voulez. Je raisonne sans mots, sans même formuler quoi que ce soit.
Merci beaucoup, Blotch.
Je vous en prie, merci.
Merci à tous.
C'était la masterclass de Blotch avec Toufik Hakem. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.